Interrogeons l'histoire, cherchons partout lumière et vérité.
Strasbourg, 1880-1930, laboratoire d'Europe.
Notre chancelier Bismarck a déclaré « Strasbourg ist und bleibt eine deutsche Stadt. Strasbourg est et restera une ville allemande. »
Strasbourg, avant d'être française ou allemande, était une ville libre.
En 1870, Strasbourg change de main. À partir de 1880, Berlin la redessine, l'agrandit, consacre beaucoup de moyens à en faire sa vitrine face à Paris. Et pendant ce temps, note Emmanuel Berle, nous autres Français ne pouvions aller au sommet de la colline de Saint-Odile sans que ne monte en nous la complainte des provinces perdues. Quelque chose en nous souhaitait à tout prix l'Alsace. D'un côté, Strasbourg était l'objet de toutes les attentions de l'Allemagne. De l'autre, elle était l'horizon d'attente de la France. Mais, invoquant son passé de ville libre et fière de son esprit d'indépendance, elle entendait ne pas être qu'un glacis culturel où s'affronteraient des influences contraires. Jusqu'à la fin des années 20, bien au-delà du retour à la France, en 1919, elle réussit à être un vrai pôle d'excellence avec ses musées, son université, qui visait rien moins que l'universel. Ensuite, hélas, ce fut la tragédie. Elle se noie dès les années 30. Les familles, les cercles d'amis, jusqu'aux êtres eux-mêmes en sortirent terriblement déchirés. Mais Strasbourg s'est relevé en retrouvant son identité double et en l'inscrivant dans une constellation plus large, l'européanéité. En l'an 2000, la ville avait déjà consacré une première exposition et un colloque au rôle de capitale qu'on lui donnait volontiers en 1900. Cette année, 2017, l'Eurométropole patronne non pas une, mais plusieurs expositions. Le thème, la fonction de laboratoire d'Europe, qui fut celle de Strasbourg, non pas seulement dans l'instant 1900, mais au long de la haute époque qui va de 1880 à 1930. Et ce, au moment où le tramway transfrontalier qui la relie à Kehl commence à tracer son chemin, ce n'est pas une coïncidence.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Roland Recht, alors c'est un peu exceptionnel pour la marche de l'histoire, nous avons consenti, parce que c'est vous, un duplex, Roland Recht. Vous avez été professeur au Collège de France, mais vous enseignez toujours à Strasbourg, vous n'avez jamais délaissé Strasbourg. L'universitaire idéal à Strasbourg, c'est celui qui ne quitte jamais vraiment Strasbourg.
Ça peut devenir un slogan. Bonjour Jean Lebrun.
C'est un slogan, mais alors on va le reprendre à notre compte. Alors vous avez été le poisson pilote de cette série d'expositions qui a commencé ce week-end. Un autre chef d'orchestre avec vous, Joël Pigeaudier-Cabot, qui vous a succédé à la tête des musées de Strasbourg et dont c'est le feu d'artifice de la carrière. Il y avait beaucoup de monde autour de Françoise Nyssen au moment de l'inauguration de combien d'expositions? Une constellation d'expositions.
Il y a réellement 6 expositions, dont 4 qui se tiennent dans le cadre des musées. Et il y a une multitude d'autres manifestations qui ne sont pas toujours des expositions d'objets et de réalia différents, mais qui sont des manifestations soit musicales, soit théâtrales autour de ce thème. Voilà.
Et il faut dire que le festival Musica commence aussi à Strasbourg en cette période avec nos amis de France Musique en direct. Et pas en duplex, comme nous, était à la salle de l'Aubette, dont on reparlera tout ce week-end. Alors, au long de cette émission, je vous préviens, Roland Recht, nous entendrons des enregistrements de nos amis communs, Liselotte Ham et Jean-Marie Hummel, qui vont scander les différentes périodes que nous allons considérer. Et on va d'abord, évidemment, commencer par la guerre franco-prussienne.
Le 25 août 1870. Ta maman et moi, nous t'aimons beaucoup, mon chéri. Nous te recommandons toujours à la protection de la Vierge Marie. Anastasia Stampf, Gert Willer, près de Célestat.
Un petit soldat mort en culotte rouge et porté en charrette avec les autres. Un paquet de lettres tombe de sa veste dans une flaque de sang. Et là, soudain, nage de pétales de roses fanées. Un médecin prussien se penche et lit à mi-voix à travers ses lunettes.
Deine Mutter, on dit, lieben dich. Schlittstadt am 25. Heimonat 1870.
1870. Lise Le Tam et Jean-Marie Hummel ont interprété un texte de René Chiquelé qui se présentait toujours comme un médiateur qui regardait des deux côtés du Rhin, un citoyen français et en même temps un poète allemand. L'évidence, j'en viens à vous qui êtes installé à France Bleu Alsace, Roland Recht aurait été de commencer toute cette série de manifestations par la date de 1870, mais quand on déplace la chronologie, les points de vue changent et c'est intéressant, vous avez décidé de prendre pour point de départ 1880.
Alors, on peut évidemment, il faut revenir à 1870 et au bombardement de Strasbourg qui a été extrêmement meurtrier. Des milliers d'obus prussiens tombaient sur la ville pendant un mois en été et qui ont détruit des vies humaines, bien sûr, mais aussi des bâtiments et du patrimoine, je dirais même la part la plus importante du patrimoine strasbourgeois, puisque à ce moment-là, ont été incendiés et la bibliothèque de la ville, avec des trésors irremplaçables, bien entendu, notamment le fameux Hortus Deliciarum, et les collections archéologiques et médiévales qui se trouvaient dans cette église où était conservée la bibliothèque, et puis également la destruction de l'Aubette, d'un bâtiment du XVIIIe siècle qui abritait les collections d'art. Donc deux centres patrimoniaux, de trésors patrimoniaux essentiels ont été détruits. Ce qu'il faut souligner pour comprendre un petit peu la suite.
Mais et le puis, Berlin, Roland Recht, décide en même temps qu'elle veut repeupler de vieux Allemands l'Alsace et surtout Strasbourg, de lui donner un rôle de vitrine et lance un concours, une compétition en tout cas entre architectes pour dessiner un nouveau plan qui permettrait d'agrandir, de multiplier par trois peut-être, la surface de la ville. Et ce plan de 1880, c'est un architecte alsacien qui finalement en est le lauréat.
Oui, c'est intéressant de le souligner parce qu'il y avait deux architectes en compétition qui ont tous les deux proposé un plan essentiel sur le plan urbanistique qui devait définir une nouvelle ville. En effet, trois fois on multipliait la superficie de la ville. Et c'est l'architecte strasbourgeois qui a remporté cette compétition. Et l'architecte allemand a été recalé. C'est assez intéressant de constater cela dans les années 1880, parce que cela donne vraiment une sorte de tonalité générale à quelque chose qui va ressembler par moment à une compétitivité, mais j'allais dire avec un souci égalitaire. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à votre première question quand même. Pourquoi 80 et pourquoi pas 70?
C'est
que après. Notamment à cause du plan, mais pas uniquement. Le plan est un élément essentiel parce que cette nouvelle ville dite Neustadt va essentiellement être entreprise dans les années 80. Les musées vont être reconstitués à partir des années 80, notamment par la désignation du directeur des musées de Berlin, Bode. L'école des arts décoratifs, qui va se révéler une école absolument pionnière, va être ouverte tout au début des années 90, et puis surtout l'université.
Alors l'université... la Neustadt, on peut s'arrêter un instant avant que vous nous parliez des musées, oui, et de l'université. Vous êtes d'ailleurs dans un bâtiment de la Neustadt, Radio France, France, oui, Bleu Alsace, est installé, oui, dans un vaste pavillon, non ? Vous n'êtes pas du tout à l'étroit.
Absolument. Hein, ouais. Je ne suis pas à l'étroit.
Et alors, il est de quel style ? Et de quel style sont les autres bâtiments ? Parce qu'il y a des bains municipaux qui contenaient des bains russo-irlandais, romains. On a l'impression qu'il y a une recherche d'universalité, de juxtaposition, de styles très différents.
Oui, il y a surtout un éclectisme qui fait qu'il n'y a évidemment aucune unité stylistique. Tantôt c'est du néo-gothique, il y a du néo-roman, il y a ce qu'on appelait à l'époque du néo-byzantin, ce qui est à peu près la même chose que le néo-roman. Bref, toutes sortes de styles anciens dont on s'inspire. Le plus original étant sans doute ce qu'on appelle alors l'art nouveau, ce qu'on appelle en Allemagne le Jugendstil, qui est évidemment une tentative de modernité bien affirmée par des formes courbes. Enfin, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. La version parisienne serait Hector Guimard. Alors, mais il n'y a pas vraiment d'édifice, oui.
Mais les collections du musée, elles recherchent aussi, oui, l'universalité. Vous parliez de M. Baude, qui était le concepteur de l'île des musées de Berlin, et à qui on donne donc un rôle, parce qu'il est un personnage absolument considérable.
Oui. Baude a été un personnage essentiel sur la scène de l'histoire de l'art dans toute l'Europe, qui avait un réseau de collectionneurs, de galeristes, aussi de collègues qui lui fournissaient toutes sortes de renseignements, qui lui vendaient aussi des œuvres. Et il a pu ainsi désigner par l'empereur pour reconstruire les collections strasbourgeoises. Il a pu ainsi réunir plus de 250 œuvres, essentiellement de peinture, mais aussi sculpture et art décoratif. N'empêche qu'il y avait un creux, avec beaucoup d'argent.
Avec un peu d'argent venu de la France, d'ailleurs. Hein.
Je sens que
la contribution française, hein, la contribution française suite, oui, à la défaite. Oui. Et alors, vous brûlez de parler de l'université, parce que voilà une université au centre de la ville.
Au centre de la ville nouvelle, pas de la ville ancienne, bien entendu, même si pendant quelque temps, les différents instituts, les enseignements se sont tenus dans le palais Rohan, qui est un palais du XVIIIe siècle. Pendant qu'on construisait donc l'université nouvelle, d'une manière extrêmement ambitieuse, s'il y a une véritable affirmation d'une rhétorique architecturale qui implante l'université à l'autre bout d'un axe, qui est une avenue, ce qu'on appelait l'avenue impériale. Une extrémité, c'est l'université, l'autre extrémité, c'est le palais de l'empereur. Voilà, donc ça, c'est déjà tout un discours, je dirais, mis en tracé dans les rues et dans le plan urbain de Strasbourg.
Et le contenu, Humboldt-Kultur, aussi la recherche de la totalité de l'universel.
Oui. Oui, alors Humboldt-Kultur, il faut peut-être dire deux mots là-dessus, c'est Wilhelm von Humboldt qui, dans les années 20, 30, 40, avait élaboré en Allemagne, à Berlin, une conception de l'université qui devait être non pas seulement un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu de recherche, et qu'il fallait lier enseignement et recherche. Aujourd'hui, en France, ça nous paraît être une évidence, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque dans notre pays. C'était essentiellement de l'enseignement. Et donc, le fait de lier enseignement et recherche suppose un très grand développement des laboratoires, des lieux d'expérimentation, à l'intérieur même de l'université. Et c'est ça qui fait la grande originalité de cette université de Strasbourg, c'est que très tôt, donc dès les années 80, on a mis en place des bâtiments. Je pense par exemple à l'observatoire, je pense au musée zoologique, qui ont été pourvus de lieux d'enseignement et en même temps d'expérimentation scientifique.
Et c'est le séminaire qui permet cette rencontre de plusieurs disciplines et des maîtres et des étudiants, lesquels, quand l'espace politique s'ouvre un peu, que Berlin laisse davantage de liberté, vont se comporter d'une façon peut-être inattendue pour les vieux Allemands professeurs de l'université. Il y a une statue de Kléber qui demeure et qui est le symbole de la France au cœur de la ville, et les étudiants, 1904, aiment s'y rendre.
Maintenant, un hommage patriotique à Kléber, le général, le totem de la tribu, comme le nomme Jean-Paul Sorgue. Ce Kléber, Albert Matisse, chanson dédiée aux étudiants alsaciens à l'occasion de leur banquet du 9 février 1904. Ça riche du silo, cadeau, maïs, ich mec, nada, brogue, yes, was ich will. Sie tänzelt so herzig und rollert durch Zähne, doch clever will wert sie die Böbe hitzen. Im Torluft der Pickel, wer herzig verslangt, zum clever, zu unserem Clever. Und Schindler enttäumt.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Roland Recht, nous sommes en duplex avec Roland Recht, professeur au Collège de France, co-organisateur des grandes expositions qui commencent à Strasbourg, laboratoire d'Europe. Alors, quel est le lien dans ces années 1900 avec la France? Vous consacrez dans le catalogue un long article à l'exposition organisée à Strasbourg, dans les nouveaux locaux de la Neustadt allemande, par la Société des Amis des Arts à l'art français, et dont le personnage numéro un est Rodin.
Oui, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui très étrange, mais qui était tout à fait normal. Il y avait une Société des Amis des Arts, très francophile, et en face d'elle, si je puis dire, il y avait une société allemande, évidemment donc germanophile, qui était très peu dynamique. Et c'est la Société des Amis des Arts, donc francophile, qui a organisé en 1907 une exposition d'art contemporain français avec des centaines de numéros. C'est une exposition extrêmement riche et dans laquelle figuraient à la fois des œuvres magnifiques de grands peintres comme Cézanne, comme Monet, comme Pissarro, et puis à côté de cela des tableaux beaucoup moins intéressants, beaucoup moins connus, et le tout formait une sorte de, j'allais dire, d'initiation générale à l'art français. Alors ce qui est très intéressant à souligner, c'est que quelqu'un qui a été très séduit par cette exposition n'était absolument pas ni francophile ni français, c'était le professeur de l'université chargé de l'histoire de l'art, Janicek, qui a considéré que voilà une société d'amis des arts dynamique qui a su placer sous l'autorité de Rodin une très belle manifestation.
Alors,
donc vous voyez que oui, il y a en fait une sorte d'interpénétration qui est très complexe et qu'il est très difficile aujourd'hui de comprendre entre des personnages qui sont tournés davantage vers l'Allemagne, d'autres qui sont tournés davantage vers la France, mais tout ce monde se rencontre dans une sociabilité, j'allais dire presque nécessaire, obligatoire. Et donc il y a forcément des choses tout à fait positives qui en sortent. Il y a aussi sans doute souvent des choses négatives, polémiques, mais enfin bon, nous avons mis l'accent sur les deux.
Et l'ancrage alsacien, parce que le pouvoir de gestion de la municipalité est arraché à Berlin, il y a des maires élus plus librement, un statut de lande fédérée est accordé par la constitution d'Alsace-Lorraine en 1911, ce qui doit faire ressortir un sentiment alsacien, j'allais dire régionaliste.
Mais c'est en effet une des données que nous soulignons dans l'exposition, de voir comment, et ça se manifeste notamment chez certains artistes, comment ils sont tout à fait en mesure de s'approprier les grandes avancées de l'art contemporain. Je pense par exemple à ce qui se passe aussi bien en France, justement après Cézanne, ou ce qui se passe en Allemagne à Darmstadt. Et en même temps, certains de ces artistes, en tout cas les plus doués, je pense par exemple à Charles Spindler, ne sautent pas complètement le pas. C'est-à-dire à un moment donné, il y a ce repli régionaliste, ce repli sur le folklore, sur une image traditionnelle, et qui est dû, effectivement, à mon avis, en grande partie, à cette nécessité pour eux de trouver une place entre deux positions. Et Spindler faisait partie de ces gens, comme d'ailleurs Schickele, qui pensaient qu'on pouvait tirer le meilleur d'une culture allemande et d'une culture française en même temps.
C'est d'ailleurs à cette époque que commence à se développer le musée alsacien qui participe au cycle Strasbourg 80-30 que vous avez inauguré, Roland Recht. Alors, la césure 80, vous nous l'avez expliqué, mais on attendait une autre césure, 1919, le retour à la France, le renouvellement du personnel. Le directeur du conservatoire, c'est Guy Repartz, le compositeur breton, qui a pour mission de mettre l'accent sur la musique française. Toutes les instances de direction sont renouvelées, d'ailleurs.
Oui. En même temps, vous donnez l'exemple de Repartz. Repartz, qui devient donc directeur de l'orchestre et du conservatoire, eh bien, il avait devant lui, quand il dirigeait une œuvre, après 19, de nombreux musiciens allemands qui étaient encore là. Donc, vous voyez que c'est pas si simple. Ce sont évidemment les figures les plus en vue. Vous parliez de Repartz, il y a le nouveau directeur des musées, qui est Hans Haug, qui est aussi, évidemment, personnalité tournée essentiellement vers la France. Oui, il y a de nombreux cas de cet ordre, mais en même temps, on s'aperçoit que tous les Allemands ou les vieux Allemands n'ont pas été chassés, même si quelques grandes figures l'ont été, et qu'on essaye aussi par ailleurs de maintenir une certaine continuité. Je pense par exemple à l'urbanisme.
Et à l'université, revenons à l'université, la continuité l'université, où il y a le moule architectural allemand, et où la France dit qu'il faut qu'on donne autant de moyens que l'Allemagne n'en donnait.
Oui, c'est tout à fait ça. Il y a là une nouvelle compétition, mais un peu décalée dans la chronologie. La France a immédiatement le souci de dire il faut que nous soyons au moins aussi forts, et cette fois-ci, Strasbourg sera la vitrine de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc, le recrutement de très grands professeurs se fait relativement aisément. Pensons aux plus célèbres, peut-être d'entre eux, Lucien Febvre et Marc Bloch, qui viennent à Strasbourg et qui sont très contents de venir à Strasbourg ici, sentent extrêmement bien. Et puis, peu à peu, ils mettent au point, alors ça c'est l'autre limite chronologique que nous avons établie pour cet ensemble de manifestations, 1930, c'est un peu schématique, mais avant 30, il y a en 29 la création de la revue des Annales, par Febvre et Bloch. Et les Annales, il faut bien le savoir, c'est le résultat d'un enseignement d'une dizaine d'années de pratiques intellectuelles, méthodologiques de ces deux hommes qui ont largement ouvert la discipline à d'autres disciplines. Cette interdisciplinarité qui était en usage dans l'université allemande a été tout simplement remise à l'ordre du jour et je dirais même développée par des hommes comme Bloch et Febvre.
Alors on en vient à la dernière coupure, 1930, les Annales, qui s'appellent au début les Annales d'économie, d'histoire économique et sociale, et qui sont si importantes pour les historiens depuis, naissent en 1929. Expliquez-vous, c'est aussi au moment où commence à éclater la crise autonomiste. 25, un manifeste autonomiste, et 26, une revue, à moins que ce ne soit l'inverse. 1928, le procès des chefs autonomistes. 1929, l'élection à la mairie de Strasbourg d'une coalition assez improbable de cléricaux, d'autonomistes et de communistes, avec un maire communiste pendant un moment. Allez, encore une intervention de Liselotte Ham et Jean-Marie Hummel à partir d'un texte de René Schickele, toujours.
Je veux que cesse la chasse aux boches, car le boche auquel vous faites la chasse, c'est moi, et pas celui qui habite de l'autre côté du Rhin. Je veux recevoir des lettres d'Allemagne sans être regardé de travers. Je ne veux pas que l'Alsace devienne une réserve de haine entre l'Allemagne et la France. On veut nous assimiler par la force, on veut annihiler notre individualité. On avait parlé d'une génération, aujourd'hui on parle de deux ou trois générations sacrifiées. Et ces discours ne se fondent pas sur le génie de la nation, mais sur le zèle des policiers. Un glacis culturel, voilà ce qu'ils veulent faire de l'Alsace. Et nous devons jouer le rôle du vrai français, du bon français, du vieux français, alors qu'il n'existe peut-être même plus en France. Nous aussi les Alsaciens, on veut participer à la réconciliation des peuples. René Schickele.
Warum sitzt aus typisch zu beklaven, Mal bist du Deutsch, mal bist du Französisch. Du tust mir leid, kannst fast nicht sagen, wie du so elend vor mir stehst. Mal rührst es lieber hoch der Kaiser und wieder Wind brillst. Vive la France, armes Volk, die Frisch ist nur mehr heiß. Und jeder tanzt dir auf der Nase.
La création Roland Recht par Bloch et Fèvre de leur revue, c'est une tentative de dépasser, en allant plus haut, les contradictions qui naissent de ce malaise alsacien où les autonomistes commencent à prendre de la place. Il y a aussi une réponse, comment dire, plus joyeuse, parce qu'il y a toujours un fort humour alsacien, c'est celle qui vient de l'Aubette, l'Aubette où était France Musique ce week-end, et qui va devenir un complexe de loisirs extraordinaire.
Oui, en 28, en effet, et un an avant les Halles, est inauguré l'Aubette, complexe de loisirs dont le décor a été entièrement confié à Theo van Doesburg, donc l'architecte et inventeur du style, à Jean-Hans Arp, enfant du pays, qui a été l'inventeur, avec quelques autres, du dadaïsme, et Sophie Teuber-Arp, son épouse, mais qui est une très grande artiste, et tous ces gens ont déjà une réputation internationale. Ils font une œuvre tout à fait d'avant-garde, d'ailleurs appelée par eux-mêmes œuvre d'art total, une œuvre tellement d'avant-garde que les commanditaires n'avaient pas pensé qu'une œuvre pareille ne peut pas s'adresser à un public traditionnel. Or, évidemment, ce lieu de loisirs avec restaurants, salons de thé, cinéma, était forcément destiné à une population traditionnaliste. Et donc, c'est un échec très rapidement. Échec qui pourrait être commercial, mais les patrons prennent les devants et commencent à revêtir les murs de toutes sortes de peintures absolument, évidemment, indignes de cette œuvre magistrale qu'avaient créée ces trois artistes. Voilà un peu, en gros, l'histoire. C'est un grand pas dans la modernité, mais qui, comme vous le voyez, s'est très vite soldé par un échec.
Alors, ce n'est pas du tout sur la tragédie que vous mettez l'accent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humour dans votre série d'expositions, Roland Recht, parce que l'Alsace rit de son dialecte, rit des autres, rit de soi-même ?
Oui, alors l'Alsace sait rire, effectivement. Alors, il ne faudrait pas penser, en venant voir nos expositions, que nous ne savons plus rire, parce que je crois qu'il y a plusieurs ensembles qui sont mis en scène, qui sont mis en évidence, qui appellent, sinon le rire, du moins le sourire. Mais Jean Lebrun, nous avons surtout voulu montrer à tout le monde, pas seulement aux Alsaciens, quelle a été l'histoire extrêmement complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne le croit généralement, lorsqu'on va un peu dans le détail de cette période entre 1880 et 1930. C'était surtout cela notre objectif principal.
Et les premières réactions, vous l'avez noté, étaient parfois de surprise. C'est ça notre histoire, se sont demandé les premiers visiteurs de cette collection d'expositions que vous avez organisée avec Joël Pigeaudier-Cabot. Je signale, avec Jean-Claude Richez, vous avez publié le Dictionnaire culturel de Strasbourg, 1880-1930. C'est aux Presses universitaires de Strasbourg et aux édition Lieu dit, un très beau livre sur la Neustadt qui vient de paraître. Merci à vous et à nos amis de France Bleu Alsace.
Strasbourg, au terminus de la gloire, métropole suspendue dans l'histoire entre la vie et la mort, la Germanie et la Romanie, une mémoire est encore possible. Le palais universitaire, un soir d'hiver, c'est Berlin en 1930. Les comtades, un jour de Yom Kippour, à l'automne, Varsovie. Il y a brusquement, ici ou là, les faubourgs de Vienne, des quais de ville de la Hanse ou de Saint-Pétersbourg en 1905. Quelque chose de Prague, quand le brouillard ne se lève pas des jours entiers. Et dans la plaine, au bord du Rhin, le commencement monotone de la Mittel-Europa.